Chapitre 73. Les Grecs ne survivront pas à cette journée. À ce rythme, ils ne survivront même pas à la matinée. Et moi non plus. Le périmètre défensif des Achéens se réduit comme peau de chagrin, et ils se battent comme des lions, le dos à la mer teintée de rouge. Mais l'avancée d'Hector est irrésistible. 5000 Achéens sont tombés depuis le début de l'offensive, juste après l'aurore, parmi lesquels le noble Nestor. On l'a transporté inconscient dans sa tente, frappé par une lance qui lui a transpercé l'épaule, en lui fracassant les os, le jetant à bas de son char. Le vieux héros qui s'était efforcé de remplacer les géants morts ou défaillants, Achille, Agamemnon, Ménélas, Ajax le Grand, le rusé Odysseus, a fait preuve de vaillance, mais cette lance a eu raison de lui. Son fils Antiloque, le plus brave parmi les Achéens durant ses derniers jours, est mort, les entrailles déchirées par une flèche troyenne. Son frère Thrasymède est porté disparu, car cela fait bien 3 heures qu'on ne l'a pas vu ressurgir de la masse de Troyens qui venait d'envahir sa tranchée. Hector tient désormais celle-ci dans ses mains ruisselantes de sang. Ajax le petit a reçu une sale blessure, un coup d'épée qui l'a atteint aux deux jambes, et on vient tout juste de l'évacuer près des nefs calcinées, un refuge qui n'a rien de sûr. Podalyre, vaillant capitaine et habile guérisseur, fils du légendaire Asclépios, est mort lui aussi. Tué par un groupe de guerriers des légions de Déiphobe. Ils ont réduit en pièces le brillant médecin et emporté son armure en guise de trophée. Alastor, ami et subordonné de Théoucros, qui a pris le relais de Thrasymède lors de la terrible bataille de la Butte, qui s'est déroulée derrière la tranchée abandonnée, est tombé au front des troupes. On l'a entendu pester pendant plusieurs minutes, le corps criblé de flèches assassines. 5 Argiens ont fait une percée pour récupérer son cadavre, mais l'avant-garde d'Hector les a massacrés. Théoucros pleurait à chaudes larmes lorsqu'il a vengé la mort d'Alastor, lâchant flèche sur flèche en direction de ses tueurs, ici crevant un œil et là perçant un ventre, avant de suivre les Grecs qui battaient en retraite. Toute retraite est maintenant impossible. Nous sommes coincés sur cette plage, avec les vagues qui nous lèchent les sandales, et il tombe sur nous une avalanche de flèches. Tous les chevaux grecs ont péri dans des cris atroces, excepté ceux que leurs propriétaires ont libérés, les yeux emplis de larmes, pour les chasser en direction des lignes ennemies. Encore des trophées pour les Troyens. Si je reste ici, je vais me faire tuer. Du temps où j'étais un scoliaste, plus précisément l'espion scoliaste d'Aphrodite, équipé d'un harnais de lévitation, d'une impacto-armure, d'un bracelet de morphing, d'un taser, du casque d'Hadès et que sais-je encore, je me sentais invulnérable, même lorsque je me retrouvais au cœur de la mêlée. Exception faite des flèches, qui sont meurtrières d'où qu'elles viennent, cette guerre est celle du combat rapproché. L'homme hume la sueur et la laine de son ennemi, et il est aspergé de son sang, de sa cervelle et de sa salive lorsqu'il plante une lame de fer, ou plutôt de bronze, au fond de ses tripes. Ces 2 dernières heures, j'ai failli y passer à 3 reprises. D'abord, il y a eu cette javeline qui fondait sur moi depuis les lignes ennemies et qui a manqué me couper les couilles. J'ai fait un bond pour l'esquiver et quand je suis retombé à cheval dessus, les vibrations de la hampe m'ont secoué les gonades. Puis c'est une flèche qui m'a dessiné une raie dans les cheveux et, moins d'une minute plus tard, sa petite sœur, les flèches en vol assombrissaient le ciel, les flèches plantées dans le sable esquissaient une forêt, m'aurait percé la gorge si un Argien dont j'ignore jusqu'au nom n'avait pas levé son bouclier pour me protéger, en voyant ricocher le trait empoisonné. Je dois foutre le camp d'ici. Depuis le lever du jour, j'ai touché plus de 100 fois le médaillon Técu, mais je ne me suis téléporté nulle part. J'ignore pourquoi. Mais si, je sais. Je ne veux pas abandonner ces hommes. Je ne veux pas aller me planquer dans la baignoire d'Hélène, ni au sommet d'une colline des environs, pendant que ces Achéens que j'ai observés durant 10 ans, allant jusqu'à bavarder avec eux, jusqu'à manger leur pain et boire leur vin, se font massacrer comme à l'abattoir sur cette ridicule plage au sable imbibé de sang. Mais je ne peux rien pour eux. À moins que... J'empoigne le médaillon, je me concentre sur un lieu familier, je tourne le disque doré et lorsque j'ouvre les yeux... Je me retrouve en train de tomber dans un puits d'ascenseur. C'est après avoir hurlé à 2 reprises que je comprends que je me trouve en chute libre, dans la coursive principale de la reine Mab, sans doute au niveau où se trouvaient mes quartiers privés. Sauf qu'on avait droit à la pesanteur la dernière fois. Maintenant, je tourne et roule dans l'espace sans vraiment tomber tout à fait, et je dois mouliner des bras pour me diriger vers la porte de la bulle d'astrogation, située 20 mètres plus bas, ou plus haut, dans le corridor. Deux Moraveks de la ceinture, ces gigantesques soldats noirs à l'armure barbelée et au crâne pareil à un masque, jaillissent d'un puits d'ascenseur tout proche, aucune cabine ne s'y trouve, et m'agrippent par les bras. Ils m'entraînent dans le puits d'ascenseur et je comprends que s'ils se déplacent avec autant de facilité en gravité zéro, c'est non seulement parce qu'ils en ont l'habitude, les présentes conditions sont sans doute celles qui prévalent dans la ceinture des astéroïdes, mais aussi parce qu'il y a des tuyères silencieuses intégrées à leur carapace, lesquelles tuyères émettent des jets, vraisemblablement de la vapeur d'eau. Grâce à ce système de propulsion, ils se déplacent dans ce monde avec une fluidité qui n'a d'égal que leur rapidité. Sans un mot, ils me conduisent dans un tunnel qui parcourt l'arène MAB sur toute sa longueur. Imaginez-vous sautant dans le puits d'ascenseur principal de l'Empire State Building, et je réagis comme le ferait tout homme sain d'esprit. Je me remets à hurler. Après m'avoir transporté sur une hauteur de plusieurs dizaines de mètres, sans même tenter d'interrompre mes hurlements, les deux soldats me font franchir une sorte de membrane invisible et nous débouchons dans une salle où règne une certaine agitation. Bien que je la découvre la tête en bas, je reconnais la passerelle de commandement. Je n'y ai effectué qu'un seul passage durant mon séjour, mais il est impossible de se méprendre. Une foule de Moraveks s'affaire devant des panneaux de contrôle virtuels en trois dimensions, des soldats Rokvek se tiennent au garde-à-vous près des projections holographiques, et je reconnais le général Baby Nadi et le Moravek qui ressemble à une petite araignée métallique. Impossible de me rappeler son nom pour le moment. Ainsi que Choli, l'astrogateur à l'étrange allure, et Astikche, le prime intégrateur. C'est ce dernier qui se dirige vers moi, se propulsant sans effort d'un simple coup de talon, tandis que les deux soldats m'installent sur un siège et m'emmaillotent dans une toile pour m'empêcher de fuir. Non, ils ne me traitent pas en prisonnier, ils me saignent d'un filet de sécurité afin de me tenir en place. Je m'en félicite, cette immobilisation forcée me permet de retrouver quelques repères.
Docteur Hockenberry, nous ne pensions pas vous revoir un jour.
Dit le petit Moravec, qui est proche de Manmuth par sa forme et sa taille, mais dont les matériaux, plastique, métaux et polymères, sont de couleurs différentes.
Je vous prie de m'excuser pour cette absence de pesanteur. Nous avons coupé la propulsion. Je pourrais m'arranger pour que les champs de force interne présentent un différentiel de pression qui vous tiendrait lieu de gravité, en quelque sorte. Mais nous devons rester en stationnement près de l'anneau polaire de la Terre et nous ne souhaitons pas altérer notre profil énergétique. Sauf en cas d'absolue nécessité.
Ça ira, dis-je, espérant que mes hurlements ne sont pas parvenus jusqu'à eux. Je dois parler à Odysseus.
Odysseus est occupé pour le moment,
répond Astikche. J'ai vraiment besoin de lui parler.
Cela ne va pas être possible, j'en ai peur.
Ce Moravec ressemble en effet à mon ami Manmuth, mais il s'exprime de façon tout à fait différente, comme si sa voix avait une qualité apaisante. Mais il est impératif pour moi de... Je n'achève pas ma phrase. Ils ont tué Odysseus. De toute évidence, ces créatures robotiques ont fait quelque chose de terrible à leur seul autre passager humain. Je ne vois pas pourquoi ils auraient éliminé l'Achéen, mais d'un autre côté, je n'ai jamais compris la moitié des agissements des Moraveks. Où est-il ? Demandai-je, m'efforçant de paraître aussi autoritaire qu'on peut l'être quand on est ligoté à son siège. « Que lui avez-vous fait ?»«
Nous n'avons rien fait au fils de Laerte, »
réplique Astikche.
« Pourquoi ferions-nous du mal à notre invité ?»
ajoute le Moravec arachnoïde dont je ne parviens pas à me rappeler le nom. Attendez, ça me revient. Rétrograde Jorgensen ou Gunderson, quelque chose de scandinave. « Alors faites-le venir ici » demandai-je.
« Cela est impossible, »
répond le prime intégrateur Astikche.
« Il ne se trouve pas à bord. »«
Pas à bord ?» Je me tourne alors vers l'un des écrans holographiques ouverts dans la coque, en lieu et place de hublot, quoique, pour ce que j'en sais, ce soit peut-être bien un hublot. Le globe bleu et blanc de la Terre y tourne doucement, emplissant la totalité du champ. Odysseus est descendu sur Terre. Sur ma Terre. Mais est-ce bien ma terre? J'y ai vécu et j'y suis mort, certes, mais c'était il y a des milliers d'années à en croire les dieux comme les Moraveks.
Non, Odysseus n'est pas descendu sur la surface,
répond Astikche.
Il a rendu visite à la propriétaire de la voie qui nous a contactés en cours de route. Une voie qui a expressément demandé à le voir.
Montrez donc la situation au docteur Hockenberry,
propose le général Baby Nadi.
Il comprendra pourquoi il ne peut pas s'entretenir avec Odysseus pour le moment.
Astikché semble méditer cette suggestion. Puis le Moravec européen se tourne vers l'astrogateur Tcholi, je les soupçonne de dialoguer par radio, qui agite l'un de ses tentacules. Une fenêtre holographique en trois dimensions de 2,50 m de large s'ouvre soudain à moins d'un mètre de moi. Odysseus est occupé à faire l'amour à la femme la plus sensuelle que j'ai vue de ma vie, excepté sans doute Hélène de Troie naturellement. Mon petit égo viril était persuadé que nos étreintes amoureuses, enfin nos copulations, pétillaient d'énergie et d'imagination. Mais il me suffit de reluquer 30 secondes la joue charnelle opposant Odysseus, corps bronzé, petit mais compact, couturé de cicatrices, à sa partenaire, teint pâle et courbes voluptueuses, beauté exotique, chevelure hirsute et maquillage outrancier, pour comprendre qu'elle relevait en fait de la gymnastique pour troisième âge, comparée avec les ébats de ces athlètes de l'érotisme. « Ça suffit, » dis-je, la bouche soudain sèche. « Éteignez ça !» La scène pornographique s'évanouit. « Qui est cette dame ? » articulai-je.
« Elle dit se nommer Sycorax. »
répond rétrograde Machinson. Je suis surpris une nouvelle fois par le contraste entre sa voix grave et la fragilité apparente de son corps métallique. « Je voudrais parler à Manmut et à Orphu Dio, » dis-je. « Entre tous les Moravec, ce sont ces deux-là que je connais le mieux et Manmut est le plus humain de ces êtres mécaniques. » S'il y a quelqu'un à bord de la Reine Mab que je sois susceptible de convaincre, c'est bien lui.
Cela non plus n'est pas possible, j'en ai peur,
dit Astikché. Pourquoi? Serait-il en train de faire des galipettes avec des petites Moravec bien roulées? Le long silence qui suit cette saillie me permet de prendre conscience de sa stupidité foncière.
Manmut et Orphu viennent de pénétrer dans l'atmosphère terrestre à bord d'une navette transportant le sous-marin de Manmut,
explique Astikché. Vous ne pouvez pas les contacter par radio ou quelque chose dans ce genre? À mon époque, on savait déjà faire ça.
Nous sommes en contact avec la navette,
dit rétrograde machin chose.
Mais celle-ci vient d'entrer en contact avec des forces hostiles, et nous ne souhaitons pas déranger son équipage dans ce moment crucial. La survie du dit équipage est loin d'être garantie.
J'envisage de poser des questions supplémentaires. Quelle puissance terrestre s'en prend à mes amis? Pourquoi? Comment? Mais une telle insistance ne ferait que m'écarter de mon but initial. Vous devez créer un trou de Bran permettant de joindre la Terre d'Ilium, déclarai-je. Le général Baby Nadi agite ses bras hérissés d'épines en un geste qui se veut interrogatif.
Pourquoi?
Parce que les Grecs sont en train de se faire massacrer jusqu'au dernier par les Troyens et qu'ils ne méritent pas cela. Je veux les aider à s'en sortir.
Vous m'avez mal compris,
dit le général.
« Pourquoi pensez-vous que nous avons la capacité d'ouvrir des trous de Bran ?»«
Parce que vous l'avez fait sous mes yeux. Vous avez ouvert tous ces trous qui vous ont permis d'aller de la ceinture à Mars, puis de là sur la Terre d'Ilium. Rappelez-vous, c'était il y a 10 mois, et j'étais là, j'ai tout vu. »«
Notre technologie ne nous permet pas d'ouvrir un trou de Bran sur un autre univers, »
dit Tcholi.
« Mais vous l'avez pourtant fait, bon sang !»
insistai-je d'une voix que je devine géniarde.
« Non, » rétorque Astikché. « Ce que nous avons fait à ce moment-là, c'est difficile à décrire et je ne suis ni physicien ni ingénieur, bien que nombre d'entre eux... Ce que nous avons fait à ce moment-là, c'est bloquer les connexions par trous de Bran des prétendus dieux et y insérer quelques-unes des nôtres dans la matrice quantique qu'ils avaient créée.
« Eh bien, recommencez! Des dizaines de milliers de vies en dépendent! Et tant que vous y êtes, ramenez donc sur la Terre d'Ilium les quelques millions de personnes qui en ont disparu, pour être transformées en rayons bleus, si j'ai bien compris. »
« Nous ignorons comment procéder pour obtenir un tel résultat, »
déclare Astikché.
« Dans ce cas, à quoi servez-vous, bon sang ?»
Je résiste à la tentation de poser cette question à haute voix.
« Mais vous êtes en sécurité ici, docteur Okanderi, »
ajoute le prime intégrateur. L'envie de hurler me prend une nouvelle fois, mais je suis bien obligé d'admettre qu'il a raison. Je suis en sécurité à bord de la Reine Mab. À tout le moins, je n'ai rien à craindre des Troyens. Et peut-être que la copine d'Odysseus a une petite sœur.
« Je dois retourner là-bas, »
m'entends-je dire.
« Où ça, crétin, dans le dernier carré grec ?»
On dirait un nom de resto à Los Angeles.
Vous allez vous faire tuer,
affirme le général Bebinadi. À en juger par le ton de sa voix, le colossal soldat humanoïde ne semble nullement ému par cette idée.
Pas si vous me donnez un coup de main.
Les Moravecs se lancent dans de nouveaux échanges muets. À l'autre bout de la passerelle, l'un des écrans holographiques montre toujours Odysseus et sa partenaire en train de forniquer comme des bêtes. C'est à présent la femme qui le chevauche, et je vois qu'elle est encore plus belle, encore plus désirable que ne le laissait supposer ma première impression. Je me concentre afin d'éviter l'érection qui s'annonce. S'il est mort avec la remarque, et il remarque quantité de choses chez les humains, il risque de prendre la chose assez mal.
Nous vous aiderons dans la mesure de nos moyens,
dit enfin Astikche.
Que souhaitez-vous?
J'ai besoin d'aller quelque part sans être vu, dis-je. Et j'entreprends de leur décrire le casque d'Hadès et le bracelet de morphing.
La technique du morphing, en tant qu'elle s'applique aux êtres vivants, dépasse nos capacités actuelles.
Déclare rétrograde Sinopesen, c'est ça.
Il s'agit d'une manipulation du réel au niveau quantique que nous ne parvenons pas encore à comprendre. Ce n'est pas de sitôt que nous saurons fabriquer des engins capables d'altérer cette forme d'effondrement des probabilités.
Et nous ignorons comment ce casque d'Hadès vous conférait l'invisibilité,
enchaîne Choli.
Mais s'il est consistant avec la technique des Olympiens ou de leur maître occulte, alors il met probablement en jeu un déphasage quantique temporel plutôt que spatial.
Vous ne pouvez pas me bricoler quelque chose d'approchant ? Au moment où je formule cette requête, je me rends compte que rien n'oblige ces Moravecs si affairés à me rendre service.
Non, dit Astikche.
Nous pourrions adapter à son usage un échantillon de tissu caméléon,
propose le général Bebinadi.
Formidable, fais-je. C'est quoi le tissu caméléon ?
Un polymère de camouflage à furtivité active,
répond le général.
Primitif mais efficace, à condition de ne pas passer trop vite d'un décor à l'autre s'il diffère un peu trop. Le même matériau recouvrait la coque du vaisseau martien de Manmut et d'Orphu, sauf qu'il est perméable à l'air, mais opaque aux infrarouges. Les lunettes que nous vous fournirons seront à base de nanocytes, de sorte qu'elles n'interféreront pas avec la fonction caméléon.
Si je me souviens bien, les dieux ont repéré et désintégré le vaisseau dont vous parlez.
Oui.
Admet le général Bebinadi.
C'est un fait dont il faut tenir compte.
Ce tissu caméléon, vous ne pouvez pas me proposer mieux?
Pas comme ça, au déboté,
réplique Astikche. Alors, je prends. Combien de temps faudra-t-il à vos petites mains, à vos techniciens moravecs, je veux dire, pour m'équiper d'une tenue caméléon et m'apprendre à l'utiliser?
J'ai ordonné au service ingénierie environnementale de se mettre au travail dès l'instant où nous avons évoqué cette possibilité,
répond le prime intégrateur.
Vos paramètres vitaux sont enregistrés dans nos archives. Le produit fini devrait vous être livré dans 3 minutes.
Merveilleux, dis-je. Mais je me demande si je dois vraiment m'émerveiller. Que vais-je faire maintenant? Comment convaincre ceux auxquels je pense d'aider les Grecs à s'enfuir? Et où diable pourraient-ils se réfugier? Leurs familles, leurs domestiques, leurs amis, leurs esclaves, tous ont été absorbés par ce rayon bleu jaillissant de Delphes. Comme si j'anticipais l'instant du départ, je me mets à tripoter le médaillon doré pendant à mon cou, caressant le disque mobile qui l'active.
« Au fait, »
dit Choli,
« votre médaillon de téléportation quantique ne fonctionne pas. »
Je m'extirpe des filets de sécurité et me retrouve en train de flotter.
« Qu'est-ce que vous racontez, bon sang ? »
lançai-je.
« Les examens auxquels nous avons procédé, après votre arrivée à bord, ont montré que ce disque n'avait aucune fonction. »
répond l'astrogateur.
« Vous déconnez ! C'est vous-même qui m'avez dit que vous étiez incapable de le reproduire, qu'il était réglé sur mon ADN ou quelque chose comme ça ?»
Le prime intégrateur Astikche produit un bruit qui évoque irrésistiblement un homme en train de s'éclaircir la gorge en signe de gêne.
Il est exact qu'il existe une forme de communication entre ce médaillon et l'ADN de vos cellules, Dr. Hockenberry. Mais le médaillon en lui-même n'a aucune fonction quantique. Il est incapable de vous técu dans l'espace de Calabillo.
Foutaise!
j'estime plus prudent d'arrêter là les invectives. J'ai besoin de l'aide de ces morts avec, sans parler de leur costume en croco. Je suis bien arrivé ici, non? Et depuis l'univers de la Terre d'Ilium, en plus.
Oui, fait Choli. Vous êtes arrivé ici, sans que le médaillon pendant à votre cou intervienne d'aucune façon. C'est un mystère.
Un soldat mort avec apportant la tenue caméléon apparaît dans le puits d'ascenseur. Cet accessoire n'a apparemment rien d'extraordinaire. En fait, il me rappelle un ridicule costume pur frime que je m'étais offert durant les années 1970. Tout y est, du col deux fois trop grand au moirage cacadois.
Ce col se déplie pour former une cagoule,
explique Astikche comme s'il lisait dans mes pensées.
La tenue n'a aucune couleur à proprement parler. Ce vert jaunâtre est un réglage par défaut permettant de la localiser au repos.
Je prends la tenue que me tend le soldat et commets l'erreur de vouloir l'enfiler. Quelques secondes plus tard, je m'envole et entre en rotation autour de mon centre de gravité, agitant la tenue comme une oriflamme mais incapable de m'accrocher à un objet fixe. Le général Bebinadi et son subalterne me rattrapent, m'immobilisent, ils n'ont aucune peine à s'ancrer aux consoles, ce qui les dispense d'imiter mon petit numéro expérimentant l'égalité entre action et réaction, puis, sans la moindre cérémonie, me fourrent dans la tenue caméléon. Puis ils fixent celle-ci à l'une des plaques velcro dont est équipé mon siège. Voilà qui me remet à ma place. Je relève le col et me coiffe de la cagoule. Ce machin est moins confortable et moins pratique que le casque d'Hadès. Primo, il fait foutrement chaud dans ce costume en croco. Secondo, les nanomachins qui me permettent de voir à travers les lunettes laissent à désirer côté netteté de l'image. Une heure à ce régime et j'aurai droit à la migraine du siècle.
Qu'en dites-vous?
S'enquiert le prime intégrateur Astikche. C'est formidable. Vous me voyez?
Oui,
répond-il,
mais uniquement au radar gravitationnel et sur des fréquences non visuelles. Aux yeux d'un observateur ordinaire, vous vous êtes fondu dans le décor, ou plus exactement dans le général Bebinadi. Les personnes auxquelles vous aurez affaire utilisent-elles le radar gravitationnel, l'imagerie thermique négative amplifiée ou d'autres techniques de cet ordre?
Comment le saurais-je? Je secoue la tête sans conviction. J'ai un petit problème, ajoutai-je à voix haute.
Lequel? Peut-être sommes-nous à même de le résoudre.
La voix du prime intégrateur est toute sollicitude. Mon épouse adorait James Mason. Je dois tourner le médaillon pour me técu, dis-je, me demandant si ma voix leur paraît étouffée. La sueur coule sur mes tempes, mes joues, mon torse. Je ne peux pas y arriver sans ouvrir la tenue et...
Le tissu caméléon est extensible.
Coupe, Bebinadi. Comme d'habitude, je ne peux m'empêcher de le trouver un tantinet méprisant à mon égard.
Vous pouvez faire glisser un bras à l'intérieur de la tenue pour toucher votre médaillon,
reprend-il.
Les deux bras, si nécessaire.
Ah, oui. J'extrais aussitôt mon bras droit de sa manche et le ramène contre ma poitrine. Et c'est par cette réponse des plus banales que je clôt la conversation, car aussitôt après, j'active le médaillon et disparais de la passerelle de la reine Mab. Un peu qu'il fonctionne! Je refoule la tentation de crier ces mots lorsque je me matérialise au point de l'espace-temps que je viens de visualiser. Et je me rappelle que j'ai oublié de demander une arme au mort avec, ainsi que des provisions et un peu d'eau, voire une impacto-armure. Mais le moment est très mal choisi pour crier quoi que ce soit. Je me trouve dans le grand hall des dieux, au sommet d'Olympos, et tous les dieux y sont rassemblés, à l'exception d'Erée, dont le trône est drapé de tissu noir. Assis sur son trône doré, Zeus fait bien 15 mètres de haut. Apparemment, tous les dieux sont là. En nombre bien plus élevé que lors de leur dernier conclave, où je m'étais introduit grâce à mon casque d'Hadès. La plupart d'entre eux me sont inconnus et je suis incapable de les identifier, moi qui ai passé 10 ans à remettre des rapports quotidiens enregistrés sur des pierres parlantes. Il y a ici plusieurs centaines de dieux, plus d'un millier en tout. Tous observent un silence absolu. Ils attendent que Zeus s'adresse à eux. Je m'efforce de ne pas respirer trop fort alors que je manque d'étouffer dans ce putain de costume en croco. J'espère qu'aucun de ces immortels ne maîtrise le radar gravitationnel ou l'imagerie thermique négative amplifiée et je me fige comme une statue, perdus au sein de cette foule de dieux et de déesses, de nymphes, de furies, d'Eridiès et de demi-dieux, et j'attends de voir ce que va nous dire Zeus.